Ce matin, nous allons continuer dans Marc chapitre 2. Hein, on va suivre l'enseignement de Marc 2 après le message de Zacharie de la semaine dernière avec le lépreux. Et ce matin, j'étais content de vous entendre, aussi par les prières et merci parce que Carole est avec nous. Il y a une différence de 5 heures en distance d'avion et nous l'avons tous eu d'une manière directe. Et c'est ça l'avantage de la technologie. Hein. Mais cela veut dire aussi que même si nous sommes à distance, même si nous sommes au bout du monde, nous pouvons donc recevoir des messages ou une prière comme ça d'une manière instantanée. Cela veut dire aussi pour nous, c'est une bonne chose pour nous, c'est que Dieu nous entend directement. Et même si la distance est importante, à la microseconde, lorsqu'on a quelque chose dans notre cœur, lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous pouvons exprimer notre situation à Dieu. Et même si notre prière paraît toute simple ou inutile pour certains, elle est utile à Dieu. Et Dieu nous entend. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, nous allons lire ensemble, d'abord Marc, chapitre 2. Hein, nous sommes arrivés donc à ce chapitre 2 et nous allons lire les quelques versets. Donc l'étude de ce matin, c'est entre le verset 1 au verset 12. Mais nous lirons quand même le verset 13, une partie du verset 13. Alors, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé, porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait, assis là, quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème ! Qui peut pardonner les péchés ?» si ce n'est Dieu seul. Et Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et partit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et je dirais simplement le verset 13, encore une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac, et les foules venaient à sa rencontre, et il les enseignait. Il les enseignait. Voilà, nous avons lu ce passage de Marc, et nous avons vu plusieurs choses déjà. Donc avec Walter, nous avons vu dans le chapitre 1 que Marc déclare d'office que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, nous voyons aussi que le Seigneur prêche, il enseigne. il annonce la bonne nouvelle. Et nous avons déjà vu plusieurs versets dans le chapitre 1. Je vais simplement donner les versets dans le chapitre 1. Le verset, on l'a déjà dit, verset 14, 15, 21, 22, 38. Je lirai simplement le verset 38, de 1 verset 38. Il est dit « Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y annonce aussi mon message. » Le verset 39 aussi. Et dans le chapitre 2, dans ce chapitre 2, dans les quelques versets que nous allons justement regarder, dès le départ, au verset 2, on parle aussi que le Seigneur enseigne. Il est dit, au verset 2, « Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole. » Et c'est pour ça aussi que j'ai lu le verset 13, parce que bon, ça englobe tous ces 12 premiers versets. Il est dit, nous l'avons entendu, au verset 13, il est dit ceci, il les enseignait. Hein. Les foules venaient à sa rencontre, il les enseignait. Et donc, ça c'est un élément important. Le Seigneur Jésus est là pour enseigner, pour prêcher dans tous les chapitres. Et les miracles que Jésus, Christ, accomplissait, accompagnaient la parole. Et donc ça, c'était un premier point. Et ensuite, nous avons notre Seigneur Jésus qui guérit. Il sauve. Et là, dans ces quelques versets, nous verrons que le Seigneur aussi pardonne les pécheurs. Et donc, dans ces quelques versets du chapitre 2, nous avons vu précédemment avec Zacharie que Dieu a guéri un lépreux. Le lépreux, c'était le symbole du péché. Nous avons vu ça dans Lévitique, hein, 13-14. Et là, nous avons un paralysé au chapitre 2. Donc c'est un deuxième personnage. Et puis ensuite, là, mais ça sera pour une prochaine fois, il y a le collecteur d'impôts. Et lorsqu'on voit tous ces miracles, on se dit, mais les miracles sont magnifiques. Le miracle là est impressionnant. Hein, quand on lit ces quelques versets, c'est impressionnant ce miracle. Mais ce qui est important de dire, c'est que Dieu, c'est un ensemble, notre Seigneur Jésus, c'est un miracle complet. Nous avons vu sa naissance, c'était du miracle. Mais là, en plus, quand je dis le Seigneur Jésus, c'est le miracle dans la perfection, c'est qu'il donne aussi le pardon. Qui peut donner, qui peut pardonner? Seul notre Seigneur Jésus-Christ peut pardonner de tous nos péchés. Quel miracle, hein ? Et donc, son message se résume à « Suivez-moi, suivez mes enseignements, et je suis venu pour pardonner vos péchés. » Et le besoin de l'homme, c'est bien sûr le pardon. Et donc, les versets clés de ces quelques versets, c'est le verset 5 que nous avons lu, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et lorsque je me suis donné au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a transmis ce message aussi, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et à chacun de vous, ce matin, vous avez accepté le Seigneur Jésus, et donc nos péchés sont pardonnés. Et donc, le verset 5, mais... Le verset 10 aussi, hein, c'est toujours sur cette notion de pardon. Hein, Zacharie a parlé justement du pardon, mais le verset 10, il est dit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. N'est-ce pas quelque chose d'exceptionnel? Un Dieu trois fois saint, et notre Seigneur Jésus est venu sur terre pour pardonner nos péchés. Quel miracle! C'est un grand, grand miracle. Alors, la première chose que nous pouvons dire, c'est un petit peu les circonstances. Nous voyons que le Seigneur Jésus revient à nouveau sur cette base de Capernaum. Il revient. Il revient pour cet homme paralytique. Donc, il fait un premier voyage d'évangélisation et il revient pour cet homme. Et donc, dans cette maison, Hein, un premier point, c'est cette maison. Dans cette maison, c'est alors les indications des dictionnaires précisent que c'est certainement la maison de Pierre. Donc, une nouvelle fois, dans cette maison, plusieurs personnes sont là et il leur annonçait, hein, c'est ce que l'on a dit, la première chose que le Seigneur faisait, c'est annoncer la parole de Dieu. Alors, les maisons en Palestine, simplement, hein, une petite parenthèse, elles étaient plates, donc le toit, c'est pas des toits comme nous avec un angle, c'est des toits plats, et donc il y avait un escalier extérieur pour monter sur ce toit plat, et donc entre les murs, il y avait des poutres, et entre les poutres, il y avait à peu près un mètre, entre les poutres qui allaient d'un mur à l'autre, il y avait une séparation à peu près d'un mètre, et c'était souvent du torchis, de la paille, et c'est comme ça qu'on a pu intégrer, enfin, ou faire passer le paralysé dans cette distance-là pour l'amener au Seigneur Jésus. Et la notion de maison, c'est important parce que on voit que même dans les actes, on parle de maison parce que on parle pas de méga church, hein, comme actuellement c'est l'idée dans les grands pays, en Angleterre, aux États-Unis, hein, mais on parle de maison, et cette notion de maison, c'était justement, les chrétiens se réunissaient aussi dans ces maisons. Alors la maison là, était peut-être un peu plus grande, il y avait du monde, mais cette notion est importante, parce que cette semaine, justement, je lisais un article, et on parlait de Washmani, qui était un évangéliste aussi, un prédicateur très connu en Chine. Il a insisté sur cette notion que les croyants ne doivent pas rester seuls et doivent se réunir, hein, dans des petits lieux. Et cet enseignement eut pour résultat la constitution de plusieurs, de nombreuses églises de maisons. Et ça, c'est peu avant la révolution communiste, et ces églises subsistent encore aujourd'hui, et dans les pays où il y a la persécution, les chrétiens se réunissent également, donc, dans cette notion de maison, et le témoignage est transmis. Et donc, tout au long de l'histoire, les chrétiens isolés ou persécutés se sont réunis en petits groupes, et ce matin, nous avons une maison, hein, virtuel, où on est réunis en petits groupes autour de la présence de notre Seigneur. Donc ça, c'est un point que je voulais quand même noter sur cette notion de maison. Et puis ensuite, nous avons notre fameux personnage, l'homme paralysé et ses quatre amis. Et non seulement son handicap empêchait de mener une vie normale, mais il l'empêche aussi d'avoir accès au Seigneur Jésus. Impossible pour ses amis de le faire passer, de frayer un chemin à travers la foule. Et la notion d'handicap et de paralysé, c'est important. Je le vois, moi, simplement avec ma jambe qui est cassée, ma jambe cosse, je peux plus galoper. Et donc, je pensais à ça parce que j'ai souvent précisé ma grand-mère paternelle, son mari était paralysé, et donc dans les années, donc avant la guerre 39, donc c'était dans la période, entre la période de la guerre 14-18 et après, donc le paralysé, c'était une situation compliquée, pas de revenus, pas de sécurité sociale, et ma grand-mère, elle avait deux fils, et c'est mon père qui l'a hébergée parce qu'elle n'avait pas de revenus. Donc un handicapé c'est difficile de survivre. Et je me souviens à Ouaga, nous étions dans une église et un dimanche il y avait un frère handicapé qui nous a complètement étonnés. Il est arrivé donc à ras-le-sol, et après les frères l'ont mis sur le banc, et quand on voyait ce frère qui était devant nous en train de chanter, etc., tout le long du culte on écoutait le message, mais en même temps on regardait notre frère, et avec mon ami chrétien on se disait mais qu'est-ce qu'on peut lui donner à cet ami. Et puis ensuite, on a eu l'occasion de faire quelque chose, mais la situation d'un handicap, c'est une situation très compliquée, très compliquée. Et donc, malgré les circonstances contraires, nous voyons que nos quatre amis ne sont pas arrêtés, et ils vont droit au but. C'est un véritable commando, mais pas un commando de terroristes, mais un commando, et le Seigneur a loué la foi de ces hommes pour avoir pris la peine de l'amener jusqu'à lui. À cause de leur attitude, ils sont des exemples de foi pour ceux qui amènent les âmes à Jésus. Et malgré tous les obstacles, ces quatre hommes placent leur ami au pied du Seigneur Jésus. Et la foi se manifeste dans des occasions difficiles. Et cela devrait être une réponse aux obstacles. Si nous avons des situations difficiles et quelquefois compliquées, on peut vivre le deuil, on peut vivre différentes situations. Nous savons que le Seigneur Jésus est là à nos côtés. Et grâce à eux, le paralysé se retrouve à la première place. N'est-ce pas la meilleure place d'être auprès du Seigneur Jésus? Donc, même devant les scribes, le paralytique se retrouve juste devant le Seigneur Jésus. Et il peut entendre sa prédication. Et ça, c'est un élément fort. Et cette foi du paralytique, le Seigneur le voit, et le Seigneur Jésus ordonne à ce paralytique de se lever et de prendre son lit. Et son obéissance à cet ordre impossible, lorsque on est cloué, impossible de se lever, le paralytique fait preuve de foi en Jésus. Il était aussi lui-même d'accord avec ses quatre amis quand ils ont décidé de l'amener à Jésus. Sans cette foi, il aurait été impossible que le Seigneur lui dise que ses péchés lui étaient pardonnés. La foi a fait changer cette vie, la vie du paralytique. Lorsqu'une personne a été sauvée par le Seigneur Jésus, ce salut doit se manifester par une vie nouvelle. Christ avait rendu capable au paralytique de marcher en nouveauté de vie. Et pourtant, c'est au paralytique que Jésus s'adresse quand il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » Jésus va à l'essentiel. Non au handicap de cet homme, mais à la situation de pécheur. Ce n'est pas la guérison de cet homme qui vient en premier, mais la déclaration du Seigneur Jésus, tes péchés sont pardonnés. C'est la plus grande chose. La prédication du Seigneur Jésus, c'est le pardon. Avant la guérison, avant le miracle. C'est important aussi, parce que nous entendons des enseignements sur les miracles, dans des milieux charismatiques ou pentecôtistes, où on met le miracle avant le message, et ça c'est pas biblique. D'abord Christ, et nous le voyons ici, la première chose, Christ dit, tes péchés sont pardonnés. Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces de Pierre 2. Verset 21. Le véritable miracle, c'est Christ. Christ qui nous pardonne de nos péchés. Après, nous allons voir la réponse que Jésus donne aux religieux. Les scribes et les témoins de ce miracle, et nous voyons donc à partir de ce verset 6, jusqu'à la fin, il y a toute cette discussion avec les scribes témoins de ce miracle. Ils raisonnaient dans leur cœur, Et quand il disait, donc il blasphémait, quand il disait, qui peut pardonner des péchés, sinon un seul Dieu, ils avaient raison, hein, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait, cette phrase, elle était exacte. Mais précisément, Dieu se trouvait là, sous la forme d'un serviteur. Il était là, descendu du ciel pour nous. Hein. Mais ils avaient un voile devant leurs yeux. Et Dieu voit leur raisonnement. Hein. Et le Seigneur va même plus loin. Il est doux avec eux. Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Et là, on voit quel raisonnement, quelle façon de faire qui est totalement différente. Bien sûr, les péchés, il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Mais voyez l'exemple avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Christ, il a vu tout de suite, voici l'agneau de Dieu. Et les scribes auraient pu dire, après cette parole, mais qui peut pardonner? Voici l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas vu Christ. Lequel est le plus facile de dire au paralytique? Tes péchés te sont pardonnés ou te dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Les péchés ont causé tous les maux. C'est pourquoi, sous le gouvernement de Dieu, sous lequel Israël se trouvait, une maladie pouvait résulter de tel ou tel péché, de sorte que c'était guérir celui qui en souffrait que de lui dire « tes péchés te sont pardonnés ». Dieu seul pouvait guérir cela, guérir, pardonner les péchés. Alors, un élément qui est important, c'est de voir justement cette relation entre la maladie et le péché. Qu'est-ce que le péché, hein? Les gens du monde parlent de péché mignon, mais devant Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Hein. L'espèce humaine est touchée depuis Adam et Ève. Et nous avons ce beau psaume 51 de David, hein, où je reprends ce psaume-là, qui est merveilleux, et qui nous dit, hein, voilà, « Lave-moi complètement de mon iniquité. » Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et un peu plus loin, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ce psaume 51 que nous citons plusieurs fois nous montre justement, David montre le péché à Dieu. Et donc, cette notion de péché, péché, c'est égal à la mort, péché, et quand on dit mort, c'est aussi mort spirituelle, c'est égal aussi à colère de Dieu, et seul notre Seigneur Jésus peut nous pardonner, grâce à son sang précieux. Et donc, les Juifs établissaient nécessairement dans cette époque, une relation entre péché et souffrance. Par conséquent, un malade, comme le paralytique, était une personne contre qui Dieu était forcément fâché. Et cette idée est également dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. Je me souviens d'avoir lu un livre sur cette notion-là, où il était préciser que cette relation maladie et péché est ensemble. Mais la Bible nous dit autre chose. Dans Luc 13, il est dit comme ça, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Et c'est le Seigneur qui dit ça. Non, je vous le dis. Et dans Jean 9, verset 2, ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Vous voyez un petit peu cette conception. Et quand Paul, dans Actes 28, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit pour en sortir par l'effet de la chaleur et s'attacher à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé par la mer. La Bible déclare que tant la mort comme la maladie sont des fruits de la chute de l'homme. C'est pour tout cela que Jésus a lutté contre cette erreur d'interprétation des Juifs. Et de nos jours, c'est la même chose. On fixe dans certains milieux la chose sur la guérison, mais la guérison, c'est une chose. Mais avant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ d'abord. Et s'il y a un miracle, il y a le miracle, mais on ne peut pas mettre le miracle avant Christ. C'est une erreur. Tes péchés, quels sont les péchés qu'un paralytique pouvait commettre? Le fait qu'il ne pouvait pas marcher et aller à certains lieux ne veut pas dire qu'il n'était pas pécheur. Le péché est une attitude de cœur et d'esprit. Et Jésus, notre Seigneur, insiste sur cette chose, ce problème de péché. Et dans l'Ancien Testament, lorsque cette notion de péché, c'était aussi la problématique avec l'Ancienne Alliance, parce que c'est certain que dans l'Ancienne Alliance, avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est par l'intermédiaire de sacrifices, par le moyen d'offrandes et de différents sacrifices, que l'Israélien authentique parvenait à sentir le pardon de ses péchés. Le psaume 32 dit ceci, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et donc, cela veut dire, ça, et également dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, cela veut dire que qu'il n'avait aucun sentiment que le péché avait quitté définitivement, et par conséquent, l'Israélien devait continuer d'offrir continuellement des nouveaux sacrifices pour quitter les nouveaux péchés. Donc c'était constamment un passage obligatoire par des sacrifices et par le passage aussi du grand sacrificateur. Mais les rabbins au temps de Jésus, et là, dans ce passage du chapitre 2, nous voyons que vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des gens qui étaient là, et aussi des gens qui étaient comme ce paralysé, et ils n'avaient pas des paroles de pardon, ni de bienvenue. Et lorsqu'on voit l'idée selon laquelle la souffrance de celui qui souffrait d'une maladie aidait à libérer l'âme de culpabilité s'était répandue parmi les Juifs, ils laissaient souffrir, on laissait les gens souffrir. Leur raisonnement était le suivant, si la perte d'un œil ou d'une dent libérait un esclave de l'esclavage, alors les souffrances du corps libéraient encore plus l'âme de toutes sortes de culpabilité. Et voilà la tendance dans cette époque-là, et c'est vrai que sous l'Ancienne Alliance, cette notion de péché par les sacrifices, c'était un rituel constant. Et quelle différence, justement, entre cette notion de revenir sur un péché entre l'Ancien Testament, de revenir aussi sur un péché avec cette option des rabbins de l'époque. Et ce que le Seigneur Jésus donne, c'est une véritable libération lorsque le Seigneur Jésus dit simplement « tes péchés te sont pardonnés ». Et ça pour nous, c'est un miracle extraordinaire. Nous pouvons venir directement au Seigneur Jésus. Alors c'est certain que face à ce miracle du paralytique, il y avait cette notion, nous n'avons jamais rien vu de pareil. qu'est-ce qui étonnait vraiment les gens? Ils avaient vu beaucoup de miracles, mais maintenant, ils découvrirent que notre Seigneur Jésus avait le pouvoir de libérer la personne, de libérer du péché, de pouvoir pardonner le péché. Et Marc mentionne cette notion-là. Le pardon des péchés nous est offert par notre Seigneur Jésus. Marc nous met aussi face à une question. Ce texte met l'accent sur la foi de l'Église, et nous laisse aussi deux questions. Notre foi nous tourne-t-elle vers nous-mêmes ou vers les autres? Première chose. Et notre foi se laisse-t-elle arrêter par les obstacles de la vie? Et nous pourrons avoir toute une série d'obstacles. Et nous voyons qu'actuellement, nous avons toutes sortes d'obstacles. On a le Covid-19, la situation économique, la situation internationale. On peut cumuler ça. Mais la foi se laisse-t-elle arrêter par les obstacles? Nous ne devons pas nous laisser donc arrêter par les obstacles. Nous ne devons pas nous laisser arrêter. Et nous devons passer au-dessus des obstacles. Et pour passer au-dessus des obstacles, nous devons nous réfugier auprès de notre Seigneur Jésus. Si nous pouvons répondre à ces affirmations, à ces questions, en affirmant « Oui, Seigneur Jésus, nous voulons nous tourner vers toi. Et nous voulons nous tourner vers toi malgré les différents obstacles que nous vivons à cet instant, même si les obstacles sont importants. » Alors ce texte devient un encouragement. Sachez que le Seigneur est venu spécialement pour ce paralytique. Et il peut venir spécialement pour chacun de nous. Nous qui sommes en France, ou Carole au Togo, ou d'autres frères à l'autre extrémité du monde, Dieu peut venir spécialement pour nous et pour nous encourager. Nos regards, c'est vers notre Seigneur Jésus. Nous avons vu notre Seigneur Jésus, c'est un miracle dans toute la perfection. Dans toutes nos situations, il a quelque chose pour chacun de nous. Il peut nous aider. Il peut nous guérir. Mais il peut nous faire aussi avancer autrement. C'est ça, le miracle, les miracles que Dieu peut offrir à chacun de vous. Il peut nous faire vivre autrement, d'une autre manière, avec son aide. Et son aide vient directement dans notre cœur, donc par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Sachez une chose, c'est lorsque on demande à Dieu, il nous entend à la microseconde, donc mieux que la technologie, à la microseconde, il nous entend. Et même avant, parce que le paralytique, avant d'y aller, lorsque le Seigneur était allé auprès du paralytique, il savait que le paralytique était là. Donc il est revenu voir le paralytique. Le Seigneur désire nous conduire autrement avec et nous, simplement, nous devons avoir confiance. Cette foi comme le paralytique. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul. Comme ces quatre hommes qui étaient près du paralytique, là aussi nous avons une famille, nous avons l'Église. Et lorsque l'Église prie, la puissance est forte. Donc nos regards doivent être centrés sur notre Jésus-Christ. Et non pas cette idée de dire, voilà, moi je veux tout de suite le miracle, je veux tout de suite une guérison, je veux tout de suite une meilleure vie, je veux tout de suite... Non, on doit apprendre autrement avec notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse vous bénir dans les différents lieux, que ça soit en Afrique ou que ça soit en France ou à l'Institut, ou au Luxembourg, que Dieu puisse vous aider, vous encourager, instant après instant. Et donc, je vous souhaite également une excellente semaine à vous tous. J'étais très heureux d'être avec vous ce matin. Amen.